On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture au bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille.
Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron.
Si après les calanques, il y a l'Italie, derrière les gouttes, il y a la Grèce.
Un bon tiers de piquant.
Le Canada, c'est là-bas, derrière Carré-Lorouet.
Et alors, un grand tiers d'eau.
Et après Marignane, c'est l'Amérique.
Voilà. Ça fait 4 tiers. Hein. Et alors?
Marseillais, Marseillaise, bonjour! Il était temps de revenir à Marseille. Surtout par cette météo particulièrement estivale. Merci énormément pour votre accueil chaleureux. On va déguster Dresse le couvert à la bibliothèque de l'Alcazar. Au cœur de Marseille, on n'est pas très loin de la Canebière, pas très loin du Vieux-Port non plus. Et le public marseillais est au rendez-vous, comme vous le constatez. L'ambition de cette émission, c'est de vous montrer, à vous cher public, à vous chers auditeurs également à la maison derrière votre poste, que le chaudron marseillais est au moins aussi agité que la salle de la bibliothèque de l'Alcazar. Particulièrement bouillonnant en ce moment, des événements d'envergure célèbrent la gastronomie locale. De nouvelles adresses gourmandes rayonnent aux quatre coins de la ville, on va le voir. On va vous donner plein d'adresses dans cette émission. Il y a une vitalité gastronomique sans précédent, je crois que c'est pas exagéré que de le dire, qui s'empare de la ville. C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Tout d'abord, celui qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment, dans la cité phocéenne et bien au-delà, le guide Goemio l'a sacré cuisinier de l'année 2019. Le guide Michelin lui a attribué en février dernier une 2e étoile. Il est aussi le chef à l'honneur de Lecture par Nature, une grande manifestation culturelle dont on va parler, de la métropole ex-Marseille-Provence. Le thème de Lecture par Nature, c'est cette année cuisine et littérature. Le chef à l'honneur est donc Alexandre Mazia. Bonjour.
Bonjour.
AM.
Très heureux d'être là. Bonjour.
C'est votre restaurant, c'est aussi vos initiales. C'est dans une petite rue non loin de l'avenue du Prado, 9 rue François Roca, 8e arrondissement de Marseille. Vous allez nous raconter, cher Alexandre, votre succès incroyable, votre démarche culinaire tout à fait singulière. Vous allez voir, on n'exagère pas. C'est une expérience assez hors norme qu'on peut vivre à Marseille. Avec nous également, un artisan dont Alexandre Mazia nous a soufflé le nom à l'oreille. C'est Nicolas Rivera, bonjour.
Bonjour.
Pêcheur, depuis moins de 2 ans, au port de Morgioux, on est entre Marseille et Cassis, une affaire que vous avez montée avec votre ami et associé Fabien Gardon.
Tout à fait.
Gardon, pour un pêcheur, faut quand même le faire. Vous aimez la mer, vous la respectez, vous pratiquez, on va le voir, une pêche douce, artisanale, voire chirurgicale, et ça fait les affaires de votre voisin Alexandre Mazia. Et puis l'on reçoit également un couple très charismatique de Marseille qui façonne, on peut le dire, l'une des meilleures pizzas de France, Maeva et Jérémy Piazza. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour Marseillais.
Ça va les amis?
Ça va, on est en pleine forme, on est content d'être là.
Je vois ça, mais Maeva est toujours en pleine forme, je pense que vous allez le constater. La Bonne Mère, c'est quand même le nom de votre petite pizzeria qui est située, comme son nom l'indique, pas très loin de Notre-Dame-de-la-Garde, surnommée La Bonne Mère évidemment. On est dans le quartier Vauban. Vous allez nous raconter cette pizza incroyable et son succès phénoménal. Ils sont du voyage à Marseille. Ce sont mes chroniqueurs, Elvire Amasson, Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Chère Elvira,
on va voir que la cuisine à Marseille, c'est aussi et de plus en plus une affaire de femmes.
Très
Je suis ravie d'être là pour vous le raconter.
Et vous avez le panier rempli de bonnes adresses. Il s'en passe des belles
des trucs,
et des bonnes à Marseille, décidément. Jérôme?
Alors moi, je vais poser une énigme à notre public, nombreux.
Ah, le public adore jouer.
Le titre de ma chronique, c'est Un Espagnol en Provence.
D'accord. Il s'agit d'une personne?
Non, il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit d'un cépage qui est majoritaire dans son appellation.
Et ne dis rien d'autre.
Unique.
On gagne quoi?
L'estime de tous, les applaudissements de la foule en délire.
Et un énorme poutou de Jérôme Gagnès. Bien aviné, non. On va déguster, très heureux de planter sa fourchette à Marseille. Poisson, pizza, cuisine de femme et haute gastronomie. C'est parti.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Mangez viva, ouvrez les yeux. Allez, c'est le viva au prix des morts. Allez, profitez. Allez, qu'un peu, madame.
L'ambiance du Vieux-Port, évidemment, inévitable, qui fait écho au métier de ce pêcheur Nicolas Rivera, dont on va parler dans un instant. 2019 est véritablement une année à marquer d'une croix blanche pour les gourmets marseillais. Plusieurs événements de la métropole célèbrent cette année. Le goût de Marseille. Tout d'abord, Marseille, Provence, gastronomie 2019, des dizaines de manifestations tout à fait salivantes. Dans toute la métropole, vous pouvez retrouver cette très riche programmation qui se tient jusqu'à la fin de l'année 2019 sur le site mpg2019.fr. Et puis, il y a l'événement qui explique notre présence à Marseille. C'est Lecture par Nature, une manifestation qui englobe plus d'une centaine d'événements culinaro-culturels qui vont se dérouler dans 71 médiathèques et bibliothèques de la métropole. Énorme effort de cette métropole, vraiment une manifestation d'envergure incroyable. Ça a commencé le 11 septembre, ça se déroulera jusqu'au 18 janvier 2020. J'ai l'immense joie de parrainer cet événement avec France Inter et Alexandre Mazia. Vous êtes, je le disais, le chef à l'honneur de cette troisième édition. Est-ce que vous êtes fier d'être associé à cet événement, Alexandre?
Ah, moi, je suis très heureux. C'est une fierté. Et puis, surtout, de pouvoir parler d'événements culturels et sociétales et sociales et de mettre en avant notre belle région.
Car la cuisine est aussi de la culture.
Elle est indissociable.
Cette devise est au cœur de votre démarche. Bah, justement, c'est aussi l'occasion de prendre le pouls de la cuisine et de la gastronomie marseillaise. Il y a encore une quinzaine d'années, on peut dire que Marseille avait un peu des complexes en matière de cuisine. C'était pas toujours facile de trouver un bon restaurant. Marseille faisait davantage parler d'elle pour sa bouillabaisse. On parlait davantage dans les médias, si, j'assume, mais c'est surtout ce qu'on entendait beaucoup. On parlait davantage de bouillabaisse du Vieux-Port, parfois faite avec des poissons surgelés de Bretagne, que de bonnes tables. Les choses ont tellement changé. Marseille est devenue une destination culinaire et gastronomique de premier plan. J'allais en venir à là, quand même, rassurez-vous. Et figurez-vous qu'on parle, et vous le savez, de la cuisine marseillaise partout, du milieu toqué parisien, qui fait de temps en temps un peu trop la pluie et le beau temps. Mais bon, on parle aussi beaucoup de Marseille dans les colonnes du New York Times. Comment vous expliquez ce nouveau dynamisme culinaire incroyable de la cité phocéenne, Alexandre?
Ben, je pense qu'il y a un changement déjà. Bon, il y a la capitale européenne de la culture qui a quand même apporté un point d'ancrage important sur la ville. Ensuite, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, les gens se sont bien rendus compte, comme vous dites, les Parisiens, mais beaucoup de gens viennent maintenant visiter de plus en plus notre région, mais aussi notre terroir, notre territoire. Moi, je dis évidemment que notre région, c'est le potager de la France. Avant, rappelez-vous, il y a quelques années, les produits partaient à Rungis et après étaient redistribués ici. Enfin, on était tombés sur la tête. Je pense que ça s'arrête évidemment grâce au circuit court et grâce à un engouement et un engagement des gens qui comprennent évidemment les trésors qu'il y a sur ce territoire. Des artisans merveilleux, des joailliers, n'hésite pas à le dire, sont vraiment des gens incroyables qui ramènent des produits sur la capitale, dans les palaces parisiens, où les gens se les arrachent pour pouvoir avoir les meilleurs produits. Et quand on regarde, les produits viennent d'ici. Donc moi, je suis très heureux d'y participer un petit peu. Donc ça fait plaisir.
Il y a eu un tournant, évidemment, avec la troisième étoile en 2008 de Gérald Paceda, qui a vraiment marqué un jalon important dans le paysage marseillais. Il y a vous, on va parler évidemment de votre réputation qui va bien au-delà de Marseille. Il y a tous vos producteurs, on va en parler. Est-ce qu'il est vrai, Alexandre Mazia, que lorsque vous vous êtes installé à Marseille en 2014, il y a des gens dans votre entourage, des amis, qui ont essayé de vous décourager en vous disant « Pourquoi tu t'installes à Marseille? Il n'y a rien ici. Ta cuisine ne peut exister qu'à Paris ou à New York. »
Oui, enfin, après, je pense que, comme pour vous, comme pour moi, je pense qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Je pense qu'il faut écouter son cœur et son instinct. À partir du moment où on est assidu, où on est vraiment, on va dire, imprégné de ce que l'on est, de ce que l'on aime, qu'on a envie de faire partager, avec sincérité, transparence, ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière qui arrivent et qui le font avec merveilleusement bien.
Vous en êtes d'ailleurs la preuve vivante. Nicolas Rivera, vous fournissez beaucoup de belles tables à Marseille. Vous êtes donc bien placé pour savoir qu'il y a effectivement des expériences gastronomiques très intéressantes grâce aux fruits de votre pêche. Vos clients, ce sont les grands chefs. Est-ce que ces grands chefs et ces grands restaurants sont vraiment indispensables pour le maintien de votre activité?
Ah, tout à fait. Parce que nous, ça nous permet donc de pratiquer la pêche durable, de pêcher sans excès, hein, pas besoin de faire de grandes quantités. Et ça nous permet de vendre nos produits bien et d'en vivre.
On va le voir, c'est une pêche tout à fait ciblée, dont le fruit a évidemment un coût. Tout un coût fait. Que peuvent oui. assumer les grands chefs.
Les grands restaurants, oui.
Maëva et Jérémy. Bon, Marseille, vous faites partie évidemment de son dynamisme avec votre pizza. Ouais. Vous constatez aussi qu'à Marseille, il y a plein d'expériences très éclectiques en matière de bonne chère.
Oui, Marseille a beaucoup changé. Ben déjà, Marseille, c'était toujours bien, mais on avait une mauvaise image. Moi, je sais, des fois, un jour, j'ai une Américaine, était au restaurant, elle faisait la gueule avec sa copine. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, ta copine et tout, elle est pas bien. Ah non, mais elle a vu dans les journaux que ça craint. Non, Marseille, ça craint pas. Ah, si tu aimes pas le soleil et l'accent, non, tu rentres chez toi. Mais si après tu aimes le vieux port, les collines, les choses gratuites, tu peux aimer Marseille. Voilà. Donc, Marseille, là-bas. Voilà.
Vous avez raison, Maëva. Allez, s'il fallait comme ça indiquer à ceux qui nous écoutent une bonne adresse où vous avez vos habitudes.
L'adresse préférée de mon mari, c'est la boîte à sardines, parce qu'on y va depuis le début.
Je voilà. suis d'accord.
Oh là là, moi, la boîte à sardines. Hommage à Céline Mendor, je l'appelle, et à Fabien Laurenchon.
Moi, j'ai été scotché il y a quelques années par leurs anémones panées. À aucun autre endroit, à part dans quelques familles corses, je n'avais remangé ce plat. Jérémy.
Qui prend dans l'aquarium avec ses mains. Et qui panne directement, c'est extraordinaire, ouais, très bon. Après, moi, j'ai un autre restaurant qui me plaît beaucoup, qu'avec Maëva, on y va depuis une dizaine d'années. Ça s'appelle la Goccia d'Olio. Ça me rappelle l'Italie, c'est à Cassis, dans les petites ruelles. C'est Alfredo qui est au fourneau. Il a une soixantaine d'années et il me fait juste des pâtes à l'arrabbiata, pimentées comme il faut. Et à la fin, il me dit, mais c'est ma maman qui me le faisait comme ça quand j'étais petit. Et voilà, c'est tout simple et très bon.
Le goût de Marseille est aussi un peu italien, on va le voir, et vous en êtes d'ailleurs la preuve. Hein. Piazza, ça vient de Naples, hein, je crois.
Et ça ressemble à pizza aussi.
Et votre pizza a une, voilà, absolument. Et votre pizza a une très belle influence napolitaine, c'est ce qu'on va voir. Dans un instant, on va pénétrer dans l'univers passionnant, parfois déroutant, on va le voir, d'Alexandre Mazia. Un univers vraiment extrêmement riche. Mais juste avant, on va assaisonner cette popote marseillaise de quelques notes de musique locale. Moussuté et Léi Jovens. Je ne garantis rien en termes de prononciation. Mademoiselle Marseille, vous êtes bien sur France Inter.
On va déguster.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, la chercher, il me faut la chercher, oh boy. La trouver, la trouver, je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise et Marseille. Montesquieu escondera. Enfin, mise et Marseille. Versailles est perdue. Remonte en canebière. J'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier. Au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser.
Thank you.
la belle affaire. Il faut chercher partout, des collines à la mer. Ça fait un sacré beau, des calanques à la nette. C'est une histoire de fou, ça fait des kilomètres. Je suis sur les genoux. Enfin, mise Marcia, monte siège escondida. Enfin, mise Marcia, baisse qui s'est perdue.
On va déguster à Marseille. Et on va déguster ses rendus à AM Restaurant, 9 rue François Roca, dans le 8e arrondissement de Marseille. On entre dans une salle contemporaine, aux lignes pures et aux matériaux bruts, béton, chêne massif, un bouquet champêtre très joli, lumière étudiée, rien que le lieu est un dépaysement, et puis il y a l'assiette qui constitue l'essentiel du voyage, ou plutôt les assiettes, les très très nombreuses assiettes dans cette succession stupéfiante de ce que vous appelez des séquences culinaires, Alexandre Mazia. Tout cela orchestré par une brigade de 16 personnes pour 24 couverts. On s'est confronté hier dans votre premier menu à, on les a comptés, on les a sous les yeux, 28 créations. On est très loin du schéma entrée, plat, dessert. S'il fallait poser quelques mots pour donner envie aux gens qui nous écoutent de s'attabler chez vous, quelques adjectifs pour qualifier cette expérience assez hors norme qu'on vit chez vous. Qu'est-ce que vous diriez ?
De vouloir découvrir son territoire d'une manière contemporaine, fait avec transparence et amour.
Alors on n'est pas du tout dans la bouillabaisse déstructurée, on n'est pas du tout dans la navette revisitée, on n'est pas du tout au pied de la lettre d'un répertoire marseillais, certes délicieux quand c'est bien fait, mais un peu trop revu. Les mots qui reviennent souvent, car évidemment, on commande beaucoup votre restaurant, dans la presse, en France et à l'étranger, on dit que c'est remuant, bouleversant, déconcertant, envoûtant. C'est des mots qui reviennent, ça vous va ?
Ça me gêne, mais oui, je peux les entendre.
Vous pouvez les entendre. Vous voulez un petit exemple de ce qu'on a mangé ? Nous y sommes allés en équipe, hier soir, on s'y est attablé. Jérôme Gagnez, un petit exemple, ce qui vous aurait le plus marqué dans cette très longue balade de près d'une trentaine de créations.
Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. C'était finalement peut-être une des choses les plus simples, dans le sens où il y avait peu d'ingrédients. Mais il y avait une très belle technique de cuisson que j'ai beaucoup appréciée, parfaitement maîtrisée, qui était la langoustine popcorn d'algues, condiment citron géranium.
Oh là là, oui, avec vraiment une... C'est là où il y a une juxtaposition...
Une cuisson de cuisson, tout à fait.
Oui,
tout à fait.
Expliquez-nous.
Ouais. Bon, en fait, on s'est aperçu, la texture de langoustine est importante, donc pas mal de fibres, comme vous voyez, et on s'est aperçu justement avec cette juxtaposition de cuisson qu'on arrivait, notamment sur cette langoustine, à avoir un côté beaucoup plus juteux, suave, et qui va apporter une salinité douce mais très agréable, et qui va permettre justement une transversalité très forte. Par exemple, voilà, on va commencer par un bain en vapeur de saké, délicatement, qui vont nourrir ses fibres. Et je parle technique, hein, même si bon, voilà, on va les mettre au four, on marque légèrement, et après vont être légèrement brûlés, fumés, pour avoir cette côté torréfié, et qui va être justement, qui va faire une passerelle, une transversalité avec le manioc que vous avez eu en satellite. Voilà, ces juxtapositions sont vraiment bien précises, et ça permet justement d'avoir, comme vous disiez, quelque chose de bien défini et de donner, si vous voulez, une épaisseur ou une finesse à un produit par sa fibre, comme on le désire en fait, tout simplement.
Elvira Masson.
Moi, j'ai adoré quelque chose dont je crois avoir même rêvé cette nuit, c'est vous dire. C'est la semoule aux épices,
oh là là,
et fleurs d'oranger, réfort, suc de carapace.
Incroyable.
Ça, il y a la légèreté, le côté aérien de la semoule, un côté assez enfantin, rond et suave de la fleur d'oranger, et à la fois l'iode et la concentration des sucs des carapaces. Il y a un côté comme ça aussi un peu métissé, un peu d'influence d'Afrique du Nord. C'est aussi ce qu'est Marseille, parce que vous parliez de territoire qu'il ne faut pas prendre à la lettre. C'est tout à fait ça, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et surtout, là, je veux la recette absolument ici et maintenant.
D'accord.
En 15 secondes.
Alexandre.
Je vous invite à revenir demain. Cette semoule, elle est là. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime le sable. Et c'est quelque chose d'assez pictural. Moi, j'aimais le sable. Je suis en Afrique, au Congo. Et du coup, il y avait toujours...
Vous y avez passé 14 ans. Hein, les 14 premières années, ce qui peut expliquer pas mal de choses dans votre univers gastronomique.
Au Congo. Et donc, du coup, il y avait toujours cette main sablée, vous savez. Et à un moment donné, voilà, j'ai fait un lien, un parallèle avec cette main et ce sable. Et du coup, on est parti chercher cette semoule qui, pour moi, apporte justement une texture à ce sucre de carapace et justement une sucrosité légère, mais là, qui va être un peu, on va dire... tronqué par la fleur d'oranger, qui va avoir un côté évanescent, un côté léger, et on va perdre un peu son repère entre le sucré et le salé. Ça pourrait être très bien un dessert.
C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une cuisine qui brouille nos repères, qui interroge notre rapport à la nourriture. D'ailleurs, on a cessé hier dans l'équipe de ne parler que de vos plats, finalement. On a parlé de pas grand-chose d'autre. On s'interrogeait, on débattait. Il y a quelque chose de troublant, parfois même un peu déboussolant.
C'est pas forcément la volonté première.
Mais vous ne flattez pas le palais de vos convives. Vous essayez quand même un peu de les bousculer, de les chahuter. Il y a des petites pointes pimentées.
Toujours.
Des goûts marqués.
Les goûts marqués, ça c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que le piment sont les traceurs avec la torréfaction, les épices et surtout aussi le fumé. Et d'essayer justement avec cette colonne vertébrale justement qui amène à chaque fois des passerelles entre les uns et les autres avec ces satellites, on s'appelle les satellites qui étirent justement, qui vont étirer le piment, qui vont étirer l'acidité, qui vont écouter la salinité, qui racontent tout simplement mon histoire.
Parce que quand vous parlez de satellites, il faut se figurer évidemment tout un éventail d'assiettes qui arrivent en même temps. Ce ne sont pas un seul service avec une seule assiette, c'est plutôt une séquence. Avec de façon décuplée, comme ça, votre création qui fait une espèce de chemin sur la table. Est-ce que quelqu'un dans le public a vécu le choc, Alexandre Mazia? Oui. Madame, vous vous appelez comment?
Rosa, bonjour. Donc, j'ai découvert votre restaurant peu de temps après son ouverture. C'est un voyage, c'est des découvertes à chaque mai et la surprise. Ça reste un souvenir très particulier. Je me souviens du pain brûlé de grand-mère, par exemple. C'est vrai que quand on voit arriver certains plats, on est d'abord, enfin, on a un petit mouvement de recul au départ. Et puis, lorsque on lâche prise un peu, on joue le jeu de l'aventure. C'est un régal d'une originalité vraiment particulière.
Merci. Beaucoup de Marseillais dans votre restaurant, sur votre carnet de réservation.
Bien sûr.
Et beaucoup de gens aussi qui viennent de l'extérieur et de plus en plus.
Exactement.
Dans votre démarche culinaire, vous n'êtes pas dans l'obsession locavore. Vous utilisez des produits qui viennent parfois de l'autre bout du monde. On a goûté du tamarin,
du galanga,
du sumac, du combava, etc. Et vous revendiquez le cosmopolitisme de votre cuisine. Toutefois, vous êtes évidemment en lien très étroit avec des producteurs locaux, dont Nicolas Rivera. Vous travaillez depuis le début avec Alexandre Mazia, c'est-à-dire depuis un an et demi.
Un an et demi, ouais, presque deux ans.
Très bel exemple de reconversion professionnelle réussie.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous en un mot.
Moi, je travaillais à l'hôpital, j'étais aide-soignant. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et en fait, Fabien, qui est plus jeune que moi, on s'est connus, on faisait de la chasse sous-marine ensemble. On s'est connus au club à la SPTT à Marseille. Mm-hmm. Donc on a commencé, moi j'avais une trentaine d'années, lui il avait une vingtaine d'années. Donc on a chassé plus d'une dizaine d'années ensemble. Et puis on s'est liés vraiment d'amitié. C'est lui qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier et qui a dit on monte notre affaire, on le fait.
Vous êtes au port Morjou. Comment on devient pêcheur professionnel? Il y a une histoire de licence, j'imagine.
Oui, donc bon, il faut aller à l'école. Hein. Donc à 40 ans, retourner à l'école.
Donc vous avez repris les études? Certificat de pêcheur?
Ouais, le CACCP. Mm-hmm. Voilà, donc bon, après, j'ai fait trois mois d'école. Mm-hmm. Bon, après, il faut mélanger la vie de famille parce que j'ai trois enfants. Donc ma femme est infirmière, donc c'est vrai que c'était pas toujours tout simple, mais bon. Voilà, j'ai passé mon diplôme et après, on a acheté un bateau et on s'est lancé.
Alors c'est un bateau, là on parle pas de chalutier, etc. On parle d'une petite embarcation de 8 mètres avec un moteur de 200 chevaux. C'est une barque ouverte. Hein.
Enfin, oui, c'est une coque open, une barge, voilà, en quelque sorte.
Et vous pratiquez, il faut vraiment parler d'un prélèvement chirurgical extrêmement ciblé dans le plus pur respect de la mer Méditerranée. Trois techniques de pêche très douces.
Le filet, la pêche à la palangre et la pêche à la canne.
Alors, reprenons un peu le filet. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous les mettez sur des bouées?
Donc, on les pose au fond, en fait. On pose nos filets et le lendemain, on vient les tirer.
Et qu'est-ce qu'on récolte dans ces filets?
Alors, le filet, on fait beaucoup tout ce qui est poisson de bouillabaisse, tout ce qui est chapon, mostel. On fait un peu des sardes, des dorades, des dentilles aussi de temps en temps. On fait un peu les langoustes, quelques homards. Et après, quand on pêche au palangre, on fait beaucoup les dorades.
Définition du palangre, palangre. Ou de la palangre.
La palangre, c'est une ligne avec plusieurs hameçons accrochés, en fait.
Donc là, on est vraiment, encore une fois...
Sélectif.
On
reste sélectif sur la... Généralement, on recherche que les beaux poissons. En plus, généralement, les poissons sont vivants quand on les pêche à la palangre.
Oui.
Donc s'ils sont trop petits, s'ils ne correspondent pas à nos attentes, on les relâche et aucun problème.
Et troisième technique que vous pratiquez avec votre associé Fabien...
Donc cette année, on a eu la licence pour la pêche au thon rouge. Donc c'est une licence, c'est une pêche qui est très, très encadrée. Et voilà.
Les quotas sont surveillés, évidemment.
Quotas surveillés. Donc on a la canne et on a droit à 920 kilos.
Donc on parle de thon rouge de Méditerranée.
Ouais.
Et vous pratiquez sur ce poisson une technique japonaise de mise à mort qui est un peu effrayante comme ça, mais qui en réalité est une technique assez nette. Qui évite que le poisson
souffre,
tout simplement. C'est Ikejime, hein.
Tout à fait. En fait,
en quoi ça consiste, en deux mots?
On le tue directement. On n'attend pas, en fait. Hein.
Comment on s'y prend?
On le tue, parce que c'est un gros poisson, donc on met un tournevis entre les deux yeux. On est obligé.
Oui, mais on touche la moelle épinière directement.
Voilà, on le tue instantanément.
Et il n'y a pas d'agonie?
Non, aucune agonie, rien du tout. Après, au niveau des ouïes, on coupe les ouïes. Le poisson se vide de son sang. Et en fait, on rentre un câble à l'intérieur du trou qu'on a fait pour toucher un nerf. Le cerveau n'envoie pas le signal à la chair pour qu'elle se dégrade.
Et ça permet surtout de laisser maturer le poisson,
voilà,
de développer ce que les Japonais appellent son umami, hein, sa cinquième saveur. Est-ce que vous avez déjà goûté du thon cuisiné par Alexandre Mazia, Nicolas?
Non, je suis allé manger chez lui, mais non, on n'avait pas mangé du thon, je crois que j'avais mangé du makoro.
Moi, j'ai eu cette chance. Alors, était-ce le thon de Nicolas hier? Exactement. Mais dans cette amuse-bouche qui a vraiment été une amorce extraordinaire, ouais. Pour moi, c'est certainement l'une des meilleures créations. C'était cette espèce de tartare de thon recouvert d'une autre tomate avec les notes citronnées et acidulées du sumac.
C'est ça.
Superbe.
Sumac mûr et raisin, aneth, fraîche. Vous avez un peu de gingembre, évidemment, mais quand on a des pièces, en fait, parce qu'il ne dit pas, mais il faut aller voir les voir pêcher quand même. Ce sont des gens incroyables. Ils font un travail d'artisan, ils sortent le poisson un à un. C'est-à-dire, un à un, ils sortent le poisson du filet, ils le respectent, ils le reposent délicatement. Quand les pièces sont trop petites, ils les remettent à la mer. C'est quelque chose qu'il faut souligner quand même. C'est quelque chose qui se fait rare. Et c'est pour ça que, justement, on se doit de participer et de quelque part d'accompagner.
Et vous discutez pas trop les prix, je crois savoir.
Y a des gens qui achètent un prix, pas un produit. Moi, j'achète un produit.
Vous pouvez vous payer ce luxe-là, en fait.
Exactement. C'est aujourd'hui, c'est vrai.
Avec votre activité.
C'est ça.
Qui fait vivre, il faut quand même bien le préciser, beaucoup de gens et qui aident aussi beaucoup de producteurs. C'est ça aussi la fonction des grands chefs. On peut parler d'une discipline élitiste, évidemment. Votre restaurant n'est accessible qu'à certaines bourses, on est d'accord avec ça, mais c'est tout un tissu aussi économique et de producteurs que vous développez. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Mais juste à l'instant, l'idée serait de parler de ce formidable élan gastronomique porté par les filles et par les femmes.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson, Marseillaise d'adoption, sans trahir votre vie privée.
Marseillaise de cœur.
Vous avez même passé une certaine partie.
Oui, j'ai passé une partie de mes vacances ici et je viens dès que je peux. Et je trouve que Marseille, plus on y vient, plus on l'aime, quoi. On s'en lasse pas. Alors, elle s'appelle Maëva, elle s'appelle Julia, Ella, Laetitia, Léa, Laura, mais aussi Marie, Colline, Marine, Charlène. Ce sont elles qui commandent les tables les plus courues de la ville. C'est passionnant à observer parce qu'elles sont hyper talentueuses, c'est pour ça que c'est passionnant, et que ça contredit un mythe qui voudrait que la cité phocéenne soit du genre un petit peu machiste. Alors ce serait un cliché un peu rapide. Rappelons que Marseille a été fondée par le marin Protis en -600, mais qu'il n'était pas tout seul, il a fondé avec sa femme Gyptis. Rappelons aussi qu'historiquement, le prix du poisson sur le vieux port était imposé aux pêcheurs par les poissonnières et les marieuses. Bon, au restaurant, c'était pas tout à fait la même affaire. Alors, il y avait bien sûr chez Vincent, je pense que tout le monde a connu chez Vincent,
Il y a un tiers des mains qui se lèvent.
Chez Vincent, c'était en fait chez Rose, ou plutôt chez Rose, qui a régné pendant des décennies sur les cuisines de cet établissement, derrière le Vieux-Port, pas très loin d'ici. Je ne sais pas si vous y êtes allé, François-Régis.
Et non.
C'était quelque part entre l'auberge marseillaise et la trattoria. Elle était encore là, Rose, jusqu'au bout. Elle surveillait la cuisson des pieds paquets, de l'escalope milanaise, quelqu'un de la pizza aux anchois, de la crème caramel. C'était assez incroyable. Et depuis sa disparition, ce sont plein de petites roses qui ont éclos partout en ville. Alors, il y a d'abord les filles du quartier Noailles, du côté de la rue d'Aubagne, encore une fois tout près d'ici. Julia Samut en tête.
Ah, épicerie l'idéal.
Ah oui, qui propose effectivement dans son épicerie cave à manger table d'hôte le meilleur des produits siciliens, toscans, grecs, provençaux, marseillais, et qui les sert
Corse.
À manger, corse bien sûr aussi, pardon, j'ai failli oublier, et qui les sert à manger de la manière la plus libre, joyeuse, festive. En remontant un petit peu la rue d'Aubagne, on trouve Ella à Flalo, chez Yima, la table levantine qui fait courir tout Marseille.
On en parle beaucoup, hein.
On en parle beaucoup.
Oh là là.
Avec son loup rôti, son Reuben sandwich, ses moules à la harissa, son fricassé tunisien. Si on descend, on tombe sur la mercerie, dont la copatronne s'appelle Laura Vidal.
Et oui.
Elle est québécoise, c'est une pro du vin nature. Et je peux vous dire que si Marseille était une ville machiste, elle aurait affaire à Laura. Mais il n'y a pas que Noailles. Hein. Je vous ai préparé un petit carnet d'adresses que vous trouvez sur le site.
Et je l'ai sous les
elles
yeux.
Sont partout
il est sacrément long.
Ah ouais, ouais, il est interminable. Et tant mieux. Il y a Léa Bisalion qui a fait ses armes chez Aleno, chez Marx, chez Paseda et qui pratique au Club Riviera dans le 2e rue Méry. Elle aussi une cuisine méditerranéo-levantine. Colline Folquier chez Signature dans le 8e rue du Rouet. Elle aussi passée par les plus grandes maisons qui s'est elle aussi installée à son compte. Elles ont 30 ans ces filles-là. Hein. Elle est connue pour son aioli et sa glace à la rouille. Parmi ces adresses, certaines sont particulièrement engagées, vertueuses. Je pense notamment à Audrey Azoulay et à sa pépite. Géniale pâtisserie bio, sans gluten, sans lactose, qui propose mais des délices, des
j'ai
merveilles.
J'ai goûté ces sablés cet été
oui,
et c'était
génial, hein.
Prodigieux.
Ah ouais, prodigieux.
Sans gluten et bio.
Ah ouais, ouais. Et formidable. Et puis une révélation, moi j'ai eu un coup de cœur absolu. J'en reviens, enfin j'y étais hier, ça s'appelle Jinko.
J'étais en train de préparer mon émission, coup de fil d'Elvira Masson qui m'a parlé pendant 20 minutes de cette adresse. Je voulais que ça...
Où es-tu? Viens.
Non, mais je voulais surtout que le coup de fil se termine un peu vite parce que j'étais en train de travailler. Là, vous avez été carrément...
Sous le charme.
Sous le charme.
La chef s'appelle Charlène Gaujou. Elle tient avec son frère Raphaël cette maison, qui est l'ancienne maison de leur papa, du côté de Mazargues. C'est un endroit extraordinaire. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est au fond d'une impasse, un potager immense, des herbes aromatiques, des plantes grasses partout, du chisseau pourpre, de la verveine d'Argentine, des crassulas... Elle travaille avec des produits issus de la cueillette sauvage. Ils ont passé l'été à ramasser de la criste marine. Elle fait ses fermentations, ses légumes lacto-fermentés. Elle n'utilise pas de film plastique, pas de détergent. Ils font chambre d'hôte. Il y a 3 chambres. Elle sert 4 fois par semaine, uniquement au déjeuner pour l'instant. Et elle conçoit vraiment son métier comme dans une obligation de faire du bien aussi bien au corps et à l'esprit. Et ses assiettes sont d'une élégance, d'un raffinement totalement végétarien. J'ai bu un jus de betterave absolument délicieux avec les fibres extraites de l'extracteur. Elle a fait une espèce de dip fermenté, elle a fait son tahin avec des grains de tournesol, elle a servi ça avec une peau de pastèque lacto-fermentée. C'était beau, c'était bon, allez-y quoi, je ne peux pas vous dire mieux.
Redites-nous le nom.
Jinko, 3 avenue Frédéric Leplay. Dans le 9e, voilà.
Et ben on va parler dans un instant d'une femme qui a aussi un sacré tempérament. Merci beaucoup, Elvira. Bah, c'est Maëva, évidemment, oui. Avec son mari Jérémy, son pizzaiolo de mari pour la pizza La Bonne Mère. On en parle dans un instant. Il y avait aussi prévu une petite recette d'Alexandre Mazia. Il y a eu comme un petit couac, en fait.
Un taxi sur les deux qui a eu un accident.
Voilà. Le taxi qui avait les belles recettes à vous faire déguster.
Non, Marco me dit 5 minutes, on va arriver, ça va arriver. Et on va pouvoir...
Eh ben, on va prendre un peu de temps et on va déguster vos plats avec plaisir. On parle dans cette émission coup de feu sacré, celui d'Alexandre Mazia, de feu de bois dans un instant, avec la pizza de Jérémy et Maëva. Les 6 Texans de Black Puma vous proposent Fire sur France Inter.
hear me understand. Oh.
Il faut savoir une chose, contrairement à ce que l'on pense, c'est que la pizza classique, donc elle est née à Naples, mais elle est arrivée à Marseille avant d'arriver à Rome.
Mmh. Pour moi, c'est la meilleure, la pizza marseillaise. Ouais. Je prends pas de croissant, je prends une pizza le matin.
On va déguster Croque Marseille par tous les bouts et tous les goûts. Et parmi tous les goûts, il y a évidemment celui de la pizza. On est à peu près tous d'accord pour dire que Marseille est la capitale française de la pizza, Maëva. Mais alors, il y a votre pizza, parce que c'est vrai que quand on parle de Marseille et du folklore autour de la pizza, souvent revient cette fameuse hybridation typiquement marseillaise, la moitié-moitié, qui peut paraître un peu incongrue quand on en parle aux Italiens. Moitié fromage râpé, moitié anchois, faut quand même le faire.
C'est hyper bon.
Mais bien sûr, c'est très très bon. Là, on va parler d'une excellente pizza, un peu plus proche de ses origines napolitaines, c'est celle de la Bonne Mère. J'avais une part, j'avais une petite faim là, et je me dis qu'on reconnaît une pizza remarquable au fait, comme le soufflait Elvira, ma voisine, qu'elle est encore bonne quand elle est
froide.
Oui, c'est le cas de vos pizzas. Elle est encore délicieuse quand elle est froide.
Ben oui, moi j'adore manger froide ou tiède. Quand le soir après le service, ben je me fais une petite part à la baraque avec un petit coup de jaja et.
Alors faut quand même reconnaître qu'à la sortie du four à bois, dans votre petite pizzeria au décor qui n'est pas totalement neutre. Hein.
Atypique.
Oui, atypique. Cabinet de curiosité, il y en a un peu partout. Il y a du Marseille, du Naples, il y a du kitsch.
Beaucoup de kitsch parce qu'avant tout, ben, on est Marseillais, c'est dans notre sang. Nous, on aime notre ville. Et en même temps aussi, on a Jérémy, mon mari, que je vais laisser un petit peu parler parce que sinon il va
ça
me
va
dire
que
tu parles à un mur. Et du coup, moi j'ai beaucoup vécu à Naples. Donc on a ces deux côtés culinaires de pizza. Alors on a voulu mettre du napolitain et avec la touche ben, marseillaise, hein, comme Manon des Sources, la Marus, la Papée,
La
Fanny aussi.
Jérôme Gagnès. Ouais.
J'ai mangé une admirable pizza en chaussons avec de la scarole fraîche et des anchois, et c'était une pizza tout en amertume, mais absolument magnifique.
Donnez à voir, donnez à goûter cette pizza, Jérémy. Qu'est-ce qui fait son secret? On n'a pas affaire à la pizza napolitaine au pied de la lettre. On la mange à Naples, pour ceux qui ont l'occasion ou la chance d'y voyager. Des gros trottoirs épais, boursouflés, elle est très bonne, la napolitaine. Elle ressemble un peu à une espèce de pâte à pain, un peu de sauce tomate, du basilico fresco, de la mozzarella fior di latte, si on veut parler de la margherita. Mais la vôtre, c'est une adaptation marseillaise. Pâte plutôt fine. Votre pâte, elle est extraordinaire. Que se passe-t-il dans votre pâte?
Ben, j'essaye de mélanger mes deux origines, le marseillais et napolitain. En fait, la pizza à Naples, le français ne l'aime pas parce qu'il va dire qu'elle n'est pas cuite. À Naples, ils la font al dente, la pâte, c'est-à-dire qu'il la laisse entre 60 et 90 secondes. Et le français n'aime
dans
pas.
Dans un four à 400 degrés.
400, 450,
c'est
exactement.
Ça.
Et moi, j'essaye de la laisser un peu plus longtemps et de mélanger mes origines provençales avec un pistou que je fais moi au pilon. Voilà, juste un peu comme ça, de mélanger les deux. Mais je garde toujours le côté napolitain en haut à droite de ma tête. Parce qu'à Naples, ils disent les trois ingrédients. Comme quand on s'habille, trois couleurs. Le quatrième peut massacrer la pizza. Donc j'essaye de rester avec très peu d'aliments sur ma pizza, voilà, de pas trop la charger. Et après la farine, qui est très importante, c'est une farine que je vais chercher moi, à côté de Alba, la fameuse truffe d'Alba, à 30 km d'Alba, s'appelle Mulino Marino.
On est donc dans le Piémont.
Exactement, dans le Piémont. C'est une farine qui est bio, qui pousse naturellement, avec du bon gluten. Parce qu'on parle de gluten, c'est un peu comme un bon, un mauvais poulet. Il y a un poulet qui gambade, un poulet élevé en batterie. Ben, le gluten, c'est pareil. Le blé pousse naturellement.
Alors, il y a les matières premières, il y a la farine bio et italienne, comme vous le dites, la mozzarella fiordilaté au lait de vache, oui, de première qualité, plusieurs arrivages par semaine. Mais il y a aussi, évidemment, les gestes et le savoir-faire. Et là, il y a quand même, déjà, pour la pâte, une fermentation qui, oui, prend son temps.
Alors, pour moi, il n'y a pas de secret dans la pizza. Si il devrait y en avoir un, entre guillemets, c'est le temps. Plus ma pâte, je la laisse reposer, et meilleure elle sera.
Combien de temps ?
Minimum 48, et des fois, voire 72, même 80, c'est encore meilleur.
Oh là là.
C'est un beignet, c'est un nuage. Tout est, en fait, tout est dans l'alvéolage. Quand on mange, on sent cette légèreté. Pourtant, c'est un pâton qui a quand même 300 grammes, entre 280 et 300 grammes.
En plus, une pâte qui a fermenté très longuement, c'est une pâte qui est plus digeste,
exactement,
qui ne vous reste pas sur l'estomac.
Le travail va se faire sur la pâte au lieu de se faire dans votre estomac.
L'étalage de la pâte est important ?
L'étalage, moi j'étale à la main, pas au rouleau, parce qu'en fait, sur ma pâte qui a fermenté, il y a des petites bulles de gaz. Et en fait, le rouleau va un peu casser ces bulles de fermentation qui, en cuisson, va faire l'alvéolage, justement, la légèreté de la pâte.
Ensuite, il y a évidemment cette fameuse cuisson. Vous avez le luxe de proposer à vos clients 24 couverts uniquement.
C'est ça, 24, oui.
Une cuisson au feu de bois.
Feu de bois, exactement.
Ça change quelque chose.
Ça change quelque chose. Alors, oui, le bois. Mais après, c'est pas le bois qui va faire la pizza. Voilà, c'est surtout les ingrédients qu'on met. Même si c'est de la pizza, ça reste très important, les ingrédients qu'on met dessus. Je mets un parmesan minimum 24 mois d'affinage, que j'achète moi en meule, que je coupe ma meule de 40 kilos. Voilà, j'essaye de respecter. J'ai des mi-cuissons aussi. Mon gorgonzola, je le mets à mi-cuisson. Parce que si je le mets au début, et on va plus le voir, il va disparaître. Et à la fin, il va pas être assez... Voilà, j'essaye juste de respecter le produit.
Vous avez ouvert en 2015. Vous nous confirmez que ça ne désemplit pas depuis et que le succès est au rendez-vous. Maëva.
Oui, en plus maintenant on a beaucoup d'Américains, alors je parle pas anglais, donc j'ai même plus besoin de partir en vacances. Hein.
Et comment vous faites avec les Américains ?
Ah ben alors oui, il y a mon petit serveur qui fait l'école, il me traduit, mais quand il parle
français avec l'accent américain.
Ah, voilà.
Ils comprennent rien.
Tout service, ils me regarde comme ça. Alors après j'ai compris que voilà, tout service. Alors maintenant je dis tout time, alors là on se comprend.
Ils l'apprécient ou pas les Américains ?
Qui, votre pizza ? Ah non, ah oui, hier elle m'a dit délicieuse.
Votre pizza là encore a une réputation qui dépasse largement les frontières de Marseille. Parlons de votre toute nouvelle aventure, puisque en plus de cette petite pizzeria qui est grande comme une boîte à sardines, s'ajoute une très jolie boutique que vous apprêtez à ouvrir dans quelques jours.
Tout le monde se connaît dans notre quartier. Et en fait, le samedi, on a beaucoup de personnes âgées et d'enfants. Bon, alors moi, je dis des fois la crèche, la maison de retraite, parce qu'on les adore. Donc, à chaque fois, elle venait à la pizza et elle me demandait la farine, la sauce tomate, tout ça. Du coup, on a racheté la boulangerie en face pour faire une épicerie, sandwicherie italienne, qu'on va appeler la Bottega de la Bonne Mère. Ça veut dire boutique de la Bonne Mère.
Ah, génial. C'est pour quand ?
Ben là, je suis vers la fin des travaux. Alors là, j'ai frotté le sol. Il me reste... Il y a toujours un problème. Hein. Voilà. J'étais à la Vierge tout à l'heure pour faire une prière parce que j'en peux plus.
J'ai vu la boutique, moi, parce que Maëva me l'a montré.
Ah oui.
Et je peux d'ores et déjà dire que c'est grand. Ce sera très agréable de s'y tenir. La déco est presque finie. Elle reprend des codes assez kitsch de la pizzeria, mais dans un registre un petit peu différent. C'est un endroit dans lequel j'ai très envie de retourner très très vite pour taper le carton avec les mamies.
Ah oui, oui, parce que vous m'avez dit... Il y en a une, elle s'appelle Nine, Mimi, et une aussi de Mazargues. Des fois, elles me font de la peine. Je dis, ne viens pas que pour manger la pizza, je te la donne, la farine. Du coup, elle me dit, bon, c'est quand que tu ouvres, parce qu'elles veulent faire le rami, la belote. Bon, ça sera pas un casino, mais ça sera belote et rami pour certaines mamies qui sont seules, les pauvres. Donc, comme je gratte mon fournisseur, vous savez, à Marseille, on est débrouillards. À Marseille, il y en a deux partout dans le monde. Du coup, nous, nos clients habitués, ils ont droit à la coupe de Prosecco. Il manque un euro, on s'en fout. Et Jérémy, pour rigoler, à chaque fois, il dit, ben, moi, je vous offre les olives. Donc, tout Marseille.
Très bien, bravo. La Bottega
de la bonne mère. C'est pour très bientôt et c'est une adresse signée Maeva, haute en couleur, et Jérémy Piazza.
Je tenais à dire par contre qu'on a ouvert un 13, la pizzeria, et qu'en face c'est le numéro 13 et que je suis à Marseille. Donc...
Vive le numéro 13.
Voilà, vive Marseille. Hein.
Et si on s'intéressait un peu à ce qui coule dans nos verres avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis ?
Le pastis, c'est une boisson que pour les grandes personnes. Mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça, après, on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
Non.
Question. Non, attendez, question à Jean Gagné. Y a-t-il de l'alcool dans le pastis ?
À peine.
Non.
Quasiment rien.
Bon, vous n'allez pas commencer, Jérôme.
Vous savez qu'il y a un drame ? Modération.
Quoi, modération ?
On l'a retrouvé au fond du vieux port avec des bottes en plomb.
Oh, non, mais ça va. Stop. On boit avec modération, c'est une évidence. Dites-moi, Jérôme, vous aviez lancé une petite énigme.
L'énigme, c'était un Espagnol en Provence. Et j'ai dit que ça concernait le cépage d'un vignoble.
Alors, monsieur, s'il vous plaît, comment vous vous appelez ?
Michel.
La solution des jeux ?
Mourvèdre.
Bravo.
Mourvèdre, bravo. Bravo, bravo, bravo. Monastrel en espagnol. Je voudrais, avant de commencer cette chronique sur Bandol, dire un tout petit mot. J'avais l'intention au départ de parler de cassis et des blancs de cassis. J'en ai goûté 6 ou 7. J'ai pas goûté de mauvais vin. C'est un très très beau terroir, cassis. C'est sublime. J'étais un peu déçu par des vins que j'ai trouvés gentils mais sans plus. Donc, petite supplique aux vignerons de cassis. Et c'est dit très aimablement et avec malice, sortez du hamac et faites des rendements un peu plus faibles. C'est une superbe.
Moi, je vous arrête.
C'est
tout
une
tout
superbe.
Vous avez l'oranger, un cassis qui fait.
Et Laurent, il vient de vendre, donc c'est plus non, lui. Mais, il n'a pas Laurent, répondu. Ouais. Il a
puis
pas
vous
de
avez,
vin.
Vous avez le Clos Saint-Magdeleine qui fait quand même des.
J'ai goûté des vins qui n'étaient pas des mauvais vins, mais j'ai pas goûté des choses qui m'ont enthousiasmé au point de vous en parler aujourd'hui.
Bon, d'accord.
Ah, on nous cite des noms bons.
Que j'ai goûté.
On poursuivra évidemment ce débat.
Alors,
sur les vins.
Parle,
c'est bien, vous faites des amis d'entrée de jeu.
Je vous parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais d'une appellation qui s'appelle Bandol, que vous connaissez évidemment, j'imagine, tous, qui est une appellation assez extraordinaire parce qu'en Provence, on parle pas suffisamment des rouges. C'est une grande région de vins rouges, la Provence, même si c'est pas la majorité des vins qui y sont produits. C'est une appellation qui fait un peu plus de 1500 hectares, située dans le Var, avec un cépage emblématique qui est le Mourvèdre. Il y en a au moins la moitié, c'est au moins 50% de la superficie du vignoble est plantée en Mourvèdre. Je pense qu'aujourd'hui, en réalité, c'est un peu plus. Quand je vous aurais dit que cette appellation s'est dotée d'un cahier des charges qui est l'un des plus contraignants de toutes les AOC françaises. Donc collectivement, des vignerons se sont fixés des limites très hautes pour pouvoir faire des vins qui sont vraiment uniques dans cette région. Ils sont extrêmement réputés depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est véritablement une appellation que je vous invite à découvrir parce que à la fois elle est très belle, les paysages sont très beaux, les restanques, tout ça c'est le travail des hommes, siècle après siècle, qui ont façonné ce paysage avec encore une fois un cépage d'origine espagnole, ça s'appelle le Monastrel en espagnol, le Mourvèdre en France, et il a trouvé là sa terre d'élection, protégée du Mistral par le massif de la Sainte-Baume et les montagnes au nord, tempérée par l'influence de la Méditerranée avec l'ouverture du golfe de Bandol, donc véritablement un terroir tout à fait unique, des calcaires et des marnes, vraiment tout est réuni pour faire un grand vin, et il y a effectivement beaucoup de grands vins. Vous avez tous dans vos verres un Bandol rouge 2015, domaine du Gros Noré. Il s'appelle domaine du Gros Noré parce que le père d'Alain Pascal, qui est le vigneron aujourd'hui, s'appelait Honoré. Il y avait 3 Honorés dans le village. Alors, lui, il était gros, donc il s'appelle Gros Noré. Et en hommage à son père, qui lui a donné la passion de la vigne et du vin, Alain a nommé son domaine, quand il l'a créé au début des années 90, le domaine du Gros Noré. Et il livre un Bandol qui est, pour moi, il n'y a jamais une seule incarnation, mais qui est une des très belles incarnations des contradictions, du paradoxe fabuleux de cette appellation. Puissance, générosité, et à la fois une très grande élégance et de la finesse. C'est un vin que vous pouvez boire sur quasiment tout. C'est un vin qui a un velouté de texture, un soyeux et en même temps une persistance et une puissance qui vous permettent de le servir sur un gibier et vous pouvez le boire sur une bouillabaisse. Et c'est encore une fois un vin absolument formidable. Le fruit noir le dispute aux épices dans une symphonie de saveurs et d'arômes avec encore une fois une longueur et une race des très grands vins. Donc vraiment allez à Bandol, visitez les domaines, allez voir Alain Pascal de la part d'On va déguster au domaine du Gros Noré. J'ai mis sur le site de l'émission d'autres domaines parce qu'il y a beaucoup de domaines incontournables. On peut citer évidemment Tempier, Terre Brune, la Bégude, la Tour du Bon, Château Sainte-Anne, Terre Blanche, Pibarnon évidemment, Prado. Voilà, il y en a beaucoup. C'est une concentration de grands domaines sur une appellation comme celle-là, c'est quand même quasiment unique.
Vous allez nous faire mal avec le prix de Gros Noré ?
Alors, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est un prix qui est au-delà de ce que je donne habituellement. On est à 25 euros au domaine. Non, c'est pas cher, Elvira, parce que quand on voit des rendements qui sont en dessous de 40 hectos, qui sont après 35 hectos, c'est ce qu'on disait. C'est la pêche de Nicolas. On veut un produit, on veut un travail derrière, on veut une qualité d'exécution, on veut un respect de la nature. Il faut se donner les moyens, de donner les moyens à ceux qui le font de le faire. Alain Pascal, elle est chez lui, il n'y a pas de Rolls ni de Porsche qui sont garés dans la cour. Simplement quelqu'un qui met du temps et de l'énergie dans sa vigne.
Même si, évidemment, cette bouteille n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Exactement. Mais voilà, une très belle bouteille.
Merci beaucoup, Jérôme Gagnès. Un dernier petit mot, car on arrive au terme de cette émission. Malheureusement, pour des questions pratiques et d'accidents de taxi, on ne pourra pas goûter votre création. Il y a la recette. Mais on va la goûter après. Mais on ne peut pas la faire goûter
en direct
pendant cette émission. C'était tomates, pastèques, fraises, donc on imagine une création monochrome. Vous nous en dites un tout petit mot, car on arrive vraiment à la fin.
Fraîcheur, la pastèque, fraise, fruit, on peut très bien la décliner en sucré ou en salé, en rajoutant par exemple un petit peu de texture avec des biscottes écrasées ou évidemment de la mie de pain torréfiée, quelques herbes fraîches, estragon, aneth. Et c'est parfait, c'est léger.
On va goûter ça. Et Nicolas, juste une petite question. On m'en parlait pendant la pause musicale. Demandez-lui si il y a encore du poisson en Méditerranée. Vaste question.
Oui, il y en a encore.
Mais vous me disiez que de temps en temps, certaines années, il y avait énormément
après,
de thon.
Ça va dépendre,
plus du tout l'année d'après. Voilà. Ils reviennent.
Il y a des cycles. Mais bon, il est vrai que quand même, le poisson, il y en a beaucoup moins qu'avant. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs facteurs, la surpêche qu'il y a eu à une certaine époque, mais au jour d'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup la pollution.
L'état de nos mers et nos océans, on est évidemment tout à fait conscient de ces réalités qu'on évoque régulièrement dans l'émission. On va déguster. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, cher public. Merci à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la bibliothèque de l'Alcazar. Merci aux organisateurs de Lecture par Nature pour leur chaleureux accueil. Lecture par Nature, 96 événements, je le rappelle, à croquer dans 64 communes de la métropole jusqu'au 18 janvier 2020. Toutes les informations sur la page On va déguster depuis France Inter. Et parmi tous les événements culinaro-culturels, je vous recommande notamment une exposition fort intéressante. Elle est intitulée On n'a rien inventé et elle raconte de façon ludique, pédagogique, très documentée, les produits, le commerce et la gastronomie de l'Antiquité romaine. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 24 novembre au Musée d'Histoire de Marseille. Ce duplex était assuré par Laurent Thomas avec les équipes techniques de Radio France, messieurs Jaffray, Martin et Perru, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission, Djoubaka pour la programmation musicale. Dimanche prochain, on va déguster, mais le cap sur Clermont-Ferrand. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous dresserons le couvert au cœur d'un étonnant festin qui célèbre la gastronomie populaire. Vous pouvez venir assister à l'émission en direct et en public depuis le Jardin Lecoq, avenue Vercingétorix. C'est dimanche prochain à 11h. À dimanche prochain, si vous avez encore faim, et vive Marseille !